Donc en fait, ma spécialité, c'est plutôt la lexicologie du français et de l'allemand, essentiellement, et c'est sous cet angle-là que je vais prendre la question, c'est-à-dire essentiellement comment, à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, le vocabulaire de marine a commencé à entrer dans les dictionnaires, dans quel type de dictionnaire, comment ça s'est passé. Alors, en fait, j'aimerais parler un tout petit peu de lexicographie en général, parce que c'est quand même un sujet qui est assez important. Vous savez sans doute qu'au XXe siècle, au XXIe siècle, on a des ouvrages qui sont très importants de lexicographie. On a eu Paul Robert qui, à partir de la fin des années 40, a mis en place son grand dictionnaire Robert, qui n'a pas écrit en entier, il a écrit entièrement le premier tome du Robert, et ensuite c'est ses collaborateurs, c'est-à-dire Alain Rey et José Trédebove, qui se sont occupés de la suite des six volumes. Hein. Mais il a donné l'impulsion et il a été le maître d'œuvre essentiel. Donc ça a été une grande œuvre comparable à l'œuvre de Larousse au XIXe siècle. Ensuite, Alain Rey a composé à partir de ça en un seul volume le Petit Robert, qui a le succès qu'on sait. Et puis à partir de 1961, je crois, approximativement, Paul Imms, qui était professeur, recteur, etc., a été chargé de mettre en place une œuvre gigantesque. Et cette œuvre gigantesque est devenue progressivement le trésor de la langue française en 16 volumes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que progressivement, avec l'évolution de l'informatique, on a commencé à comprendre à partir de la fin des années 80, approximativement, qu'il était possible de remplacer progressivement les dictionnaires papier par des dictionnaires électroniques, hein, qu'il s'agisse de dictionnaires monolingues, bilingues, etc. Donc, à partir de, je crois que c'est 1990 approximativement, est paru sous forme de CD-ROM le Petit Robert électronique, qui a été, pendant une certaine période, refait régulièrement à peu près tous les 7 ou 8 ans, et dans les derniers temps, il est refait tous les ans. Hein, il y a une édition 2009, 2010, 2011 du Petit Robert, parce que ça se vend très très bien, et que ça a quand même un énorme avantage, c'est que c'est beaucoup moins lourd que le Petit Robert quand on le transporte avec soi. Alors, pourquoi je parle de cet aspect électronique? Parce que, à partir du moment où on a commencé à faire des dictionnaires électroniques nouveaux, on s'est dit, mais pourquoi ne pas numériser les dictionnaires anciens? Et donc, il y a eu une grande œuvre qui a commencé à partir de ces années 90 de numérisation. Alors, soit numérisation totale, soit numérisation partielle de dictionnaires anciens. Donc, quand je parle de numérisation totale, ça veut dire que la totalité des informations sont ressaisies entièrement et mises sous format de dictionnaire électronique. Ça a été le cas, par exemple, pour le dictionnaire de Furetière, Dictionnaire universel de Furetière, qui date de 1694 et qui a été entièrement ressaisi. Toutes les informations sont disponibles de manière numérique. Ça a été fait pour d'autres dictionnaires, par exemple le dictionnaire critique de Féraud, qui date du milieu du XVIIIe siècle. Ça a été fait à l'université de Poitiers. Ça a été fait pour un certain nombre de dictionnaires. Et le résultat a été, je parle là du format numérisé, entièrement numérisé, que le CNRTL, qui est le grand centre de lexicographie de l'université de Nancy et du CNRS, a progressivement constitué une base de dictionnaires numérisés. Et puis, ils se sont entendus avec l'université de Chicago. L'université de Chicago, qui déjà avait pris sous son aile la base Frantex. Vous savez sans doute que la base Frantex, c'est la totalité des documents, des textes anciens, au départ allant du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, et puis après ça s'est étendu au moyen français et à l'ancien français. Donc la base Frantex, c'est tout ce qui a été utilisé par les rédacteurs du Trésor de la langue française pour constituer leur base de travail et toutes leurs citations. Donc cette base Frantex a acquis son indépendance à partir des mêmes années. Elle est très très utilisée par les étudiants en linguistique, un petit peu moins, mais également par les étudiants en littérature. Et entre l'Université de Chicago d'un côté et le CNRTL de Nancy, on dispose maintenant de au moins une dizaine de dictionnaires anciens qui sont numérisés. Alors, certains n'ont été que partiellement numérisés. Partiellement numérisés, ça veut dire que quand vous demandez un mot, il retombe d'office sur la page où se trouve ce mot. Mais par contre, vous l'avez en format image. Hein? Alors, c'est le cas pour le Gaffio, par exemple, pour le latin. C'est le cas pour le dictionnaire de l'ancien français de Godefroy. C'est le cas pour un CD-ROM qui a été publié par des amis allemands à l'université de Stuttgart et de Cologne pour le dictionnaire de l'ancien français de Tobler et Lomatch, qui date des années 1920. Donc, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, pour ce qui concerne l'histoire du français, on a des ressources absolument extraordinaires, numérisées. Ou semi-numérisés. Mais on peut faire des recherches assez approfondies avec ce qu'on a. Alors, il est paru également un CD-ROM qui s'appelle Grand Atelier de la langue française, Grand Atelier historique de la langue française, qui fournit 14 dictionnaires anciens. Hein. Il y a le Furtière, il y a 6 éditions du dictionnaire de l'Académie française, il y a le Littré, un certain nombre de choses comme ça. Bien. Donc, à partir de tout ça, on peut s'interroger. Alors, il se trouve que dans les 14 dictionnaires en question, se trouvait un dictionnaire que je ne connaissais pas, hein, qui est le dictionnaire de Thomas Corneille. Donc, Thomas Corneille était le frère de Pierre Corneille, et il a pris sa succession à l'Académie française. Quand son frère est mort, c'est lui qui est entré sur le même fauteuil, hein, l'Académie française. Et l'Académie française, au moment où Louis XIV leur a demandé de constituer la première édition du dictionnaire de l'Académie française, l'Académie a réfléchi. Et apparemment, je reconstitue ce qu'ils ont dû se dire, hein, parce que je n'ai pas pu avoir la preuve, mais ils ont dû se dire, il y a d'un côté le lexique de l'honnête homme, c'est-à-dire ce que tout homme cultivé, aristocrate, ça devrait connaître du français, et puis à côté, il y a des savoirs techniques. Ces savoirs techniques, c'est un savoir des artisans, des spécialistes, on ne va pas tout mélanger. Donc, en 1694, quand paraît la première édition du dictionnaire de l'Académie, on ne mélange pas tout. On a deux volumes qui sont des volumes de lexique général et on a deux volumes qui sont lexique technique. Et ces deux volumes vont s'appeler « Dictionnaire des arts et des sciences » de Thomas Corneille. Alors, ce dictionnaire a été numérisé entièrement et ce qui est très bien, c'est qu'à chaque fois que l'auteur a marqué en tête d'article marine, artillerie, différents domaines, hein, des techniques, ça a été rassemblé dans des classes. Donc on a la classe de 815 termes de marine. Donc il y a 815 termes qui sont marqués marine par Thomas Corneille. Et puis, alors on voit que c'est une des zones les plus importantes, car si on compare, il y a très peu de spécialités qui ont plus de 800 termes. Hein, et d'autres qui nous paraîtraient importants, comme par exemple métallurgie, tout ça, ont peut-être 100 ou 200 termes. Donc, on voit que la marine occupe une position absolument importante, et la marine spécialement dans le sens de construction navale. Alors, comme je n'avais pas la possibilité de m'occuper de 815 termes et que moi, je travaille habituellement sur les verbes, je me suis spécialisé sur les verbes. Alors, les verbes, on en trouve 160. Ouais. Donc, on a tous les verbes qui sont ici. Alors, ce qui est intéressant, si vous arrivez à les lire, donc il faut lire le début, abattre, aborder, acclamper, accorer, accrocher, affaler, agréer, c'est que on voit que finalement, depuis la fin du XVIIe siècle, tant qu'on reste dans ce domaine de la marine à voile, la plupart des termes n'ont pas changé, ont gardé le même sens, correspondent toujours aux mêmes techniques. Et ça, c'est une leçon très intéressante pour le linguiste. Il y a un grand linguiste roumain, Eugenio Cozeriu, qui a dit « Il ne faut surtout pas confondre la lexicologie et la terminologie. » Il dit « C'est deux choses différentes. » La terminologie, ce sont des termes qui sont créés de manière consciente par des gens dans un certain domaine, hein, et ils font ça bien, et comme ils font ça bien, aussi longtemps que la technique ou la science en question reste active, il n'y a pas de raison que ça change. Bon. Sauf des raisons qui seraient des raisons d'emprunt, parce que, par exemple, la science en Angleterre ou en Allemagne aurait beaucoup plus de succès et qu'on emprunterait des termes à l'étranger. Et c'est tout à fait ce qu'on observe ici, c'est que, quand on est un peu dans la spécialité, ce que moi je ne suis pas, mais on voit que un bon nombre de ces verbes ont un sens technique et qui va se maintenir jusqu'à l'époque moderne. Donc ça, c'est une observation intéressante, alors que dans le domaine de la lexicologie, c'est pas comme ça. Hein. La lexicologie, ce sont des mots qui sont utilisés tous les jours et qui n'ont pas été créés consciemment, hein, mais qui sont nés des contacts entre les peuples, etc. Et donc, ils ont toute chance de subir une érosion phonétique, changer de construction syntaxique et changer de sens. Hein. Donc ça fait une différence. Alors, il semble, je dis il semble parce que même notre grande spécialiste n'a pas réussi à obtenir du CRHQ qu'il ait ce magnifique ouvrage. Non, enfin, je dis magnifique, on ne l'a jamais vu, donc on ne sait pas à quoi il ressemble. Mais le premier dictionnaire de termes propres de marine date de 1687 d'un certain Nicolas Desroches. Alors, on peut se dire, 1687, finalement, c'est quand même assez tard. Non, c'est pas tard. Si on réfléchit que le premier vrai grand dictionnaire du français, général, hein, c'est le Trésor de la langue française de Nico, qui date de 1610. Donc, vous voyez, ça ne représente pas un retard très important. En plus, le dictionnaire de Nico dont je parle est en fait un dictionnaire bilingue. Il n'est pas encore passé à un dictionnaire français-français. C'est un dictionnaire français-latin. C'est-à-dire qu'on ne donne pas de définition des mots en français, on donne l'équivalent en latin. Hein? Donc ce serait plutôt, c'est une sorte de dictionnaire de thèmes latins, si on veut, hein, puisque ça passe du français au latin. Alors en 1691, on a Jacques Ozanam qui écrit un dictionnaire de mathématiques, mais en fait le sous-titre est beaucoup plus long, et c'est mathématiques et toutes disciplines pour lesquelles les mathématiques peuvent être utiles, etc. Donc c'est plutôt un dictionnaire des sciences et des techniques, 1691. 3 ans plus tard, la même année que la parution de la première édition du dictionnaire de l'Académie, Thomas Corneille sort son dictionnaire des arts et des sciences comme supplément au dictionnaire de l'Académie. Alors maintenant, les dictionnaires généraux. Les deux premiers, c'est donc Jean Nicot, 1610, Trésor de la langue française, et puis après, c'est Richelet, dictionnaire du français de Richelet, 1660. 1690, Antoine Furtière. Alors l'affaire de Furtière mérite d'être racontée parce qu'elle est quand même assez amusante. Furtière était membre de l'Académie française, hein, il était un des académiciens les plus actifs, et puis il a trouvé que vraiment le dictionnaire de l'Académie française ne sortait pas. Et ça commençait à l'énerver sensiblement de voir que ça ne sortait pas. Et donc il a dit, puisque c'est comme ça, moi je fais le mien. Et donc il a publié en Hollande, parce qu'il fallait pas faire ça en France, sinon... Il allait avoir des problèmes avec Louis XIV, et il publie en Hollande son dictionnaire, qui est une pure merveille, qui est extraordinaire. C'est vraiment une perfection pour son époque, par les définitions, les exemples, l'organisation des articles. Ben, résultat, qu'ont fait les académiciens? Ils l'ont viré. Avec perte et fracas, ils ont dit, c'est pas du jeu, vous avez utilisé déjà une partie de nos fiches. Dès qu'il y a des fiches, hein, on ne sait jamais... Comment c'est utilisé? Bon, il s'est défendu, mais il a été viré de l'Académie. Et donc, finalement, il s'est passé 4 ans, de 1690 à 1694, jusqu'à ce que le dictionnaire de l'Académie, première édition, paraisse. Et en fait, quand on compare les deux, on se dit que Furtière a fait le bon boulot, hein, parce qu'il est bien meilleur, le dictionnaire de Furtière est bien plus complet, bien meilleur que le dictionnaire de l'Académie. Et surtout, Furtière est en avance sur son temps du point de vue de la conception qu'il a des sciences et des techniques, c'est qu'il intègre directement le vocabulaire des sciences et des techniques dedans. Donc il fait à lui tout seul, dans un dictionnaire, je ne sais pas à l'époque combien il faisait de tomes, il devait faire 2 ou 3 tomes, ce qu'on trouvera 4 ans plus tard avec le dictionnaire de l'Académie française plus le dictionnaire de Thomas Corneille. De l'Académie ne voulait pas admettre qu'après avoir viré un académicien, ils reprennent des définitions bien de chez eux. Mais on voit que dans certains cas particuliers, il y a une influence. Deuxième édition du dictionnaire de l'Académie, pas tellement longtemps après, c'était une époque où ils allaient assez vite, 1718, troisième édition 1740, et celle qui nous intéresse, c'est la quatrième édition de 1762, parce que à cette occasion, les 2+2 volumes, c'est-à-dire les 2 volumes du dictionnaire classique plus les 2 volumes du dictionnaire des arts et des sciences, sont réunis en 4 et la notion de dictionnaire des arts et des sciences disparaît. J'y vois une explication. Encore une fois, c'est moi qui dis ça, je n'ai pas les preuves. Mais entre les deux est paru le dictionnaire de l'encyclopédie, donc l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et je pense qu'à ce moment-là, les gens se sont rendus compte que le savoir technique et scientifique allait devenir un savoir de l'honnête homme aussi, et que donc ça n'avait plus de sens d'avoir une édition uniquement technique et une édition littéraire, philosophique. Donc on rassemble le tout, on en fait une seule œuvre. Si on pense au rôle des planches de l'Académie, les planches de l'Académie ont joué un rôle très important pour que tout le monde soit un peu au courant sur les différents métiers, qu'on sache comment ça fonctionnait. Et puis, il y a eu d'autres dictionnaires de marine. Je note simplement celui d'Auguste Jalle, Glossaire nautique de 1843, parce que c'est celui sur lequel Elisabeth a le plus travaillé, pour lequel elle refait une nouvelle édition. Donc, ce qu'on peut présumer, c'est que Ozanam, qui n'est pas un spécialiste de la marine, reprend en partie les définitions de Desroches. Mais comme je n'ai pas pu personnellement consulter directement les définitions de Desroches, je n'ai pas la preuve. Il est vraisemblable également que Thomas Corneille s'inspire de Desroches, mais de toute façon, il s'inspire directement de Ozanam. Aubin s'inspire de Desroches, s'inspire de Ozanam. Je ne pense pas qu'il s'inspire de Thomas Corneille. Et puis, Auguste Jalle reprend la tradition. Alors, en fait, je vais aborder simplement deux cas qui sont intéressants pour le linguiste. D'abord, le verbe « touer », verbe que je ne connaissais pas, et puis ensuite, le verbe « agréer », pour expliquer ce qui s'est passé. Alors, dans le cas de « touer », on part de la première définition disponible, c'est celle de Furtière. Donc, il nous dit « terme de marine, c'est faire avancer un vaisseau par le moyen d'un capestan, donc cabestan, et de la ancière, je ne sais pas si on prononce ancière ou ancière. Ancière. Ancière, ou câble attaché à terre, ou à un ancre, il dit un ancre, sur lequel on hale et qu'on fait roidir. On le dit aussi des vaisseaux qu'on tire à terre par de petits vaisseaux ou chaloupes qui ont des rames. C'est ce qu'on appelle sur la mer de Levant remorguer. Ce mot vient de l'italien rimurcare, ou du latin remulcare, ou du castillan remulgar. C'est ce qu'on dit autrement nager sur le fer. Les moyens ancres s'appellent ancres de touer. Les latins ont dit towagium pour dire touage. Bon, vous voyez qu'on a quelque chose de très complet de la part de Furtière avec des indications étymologiques. Ozanam, en 1691, qui n'a sans doute pas eu connaissance du Furtière parce qu'un an de distance, ça paraissait difficile, il nous dit « Touer est changer la situation d'un vaisseau par le moyen de l'ancre à touer. C'est aussi faire voguer un vaisseau à voile par le moyen d'un vaisseau à rame. C'est en général tirer quelque chose après soi dans l'eau. » Ozanam vers Corneille maintenant. Donc, touer, c'est tirer, faire avancer un vaisseau avec l'ancière qui est attachée par un bout. L'autre bout de cette ancière est amarré quelquefois à une ancre, donc lui il est passé au féminin, une ancre mouillée, et quelquefois l'ancière va répondre à terre où les matelots la saisissent et halent dessus afin que le vaisseau avance. On dit aussi touer pour dire faire voguer un vaisseau à voile par le moyen d'un vaisseau à rame. Donc, voyez, c'est aussi faire voguer un vaisseau à voile par le moyen d'un vaisseau à rame. On le dit aussi des vaisseaux qu'on tire à terre par de petits vaisseaux ou chaloupes qui ont des rames. Et ici, faire voguer un vaisseau à voile par le moyen d'un vaisseau à rame. On appelle ancre à touer ou toueur une petite ancre dont on se sert dans les rades pour changer le navire d'un lieu à un autre. Aubin, en 1708, donc dictionnaire de marine de Aubin. Touer, c'est tirer ou faire avancer un vaisseau avec la ancière qui est attachée par un bout. Et enfin, dictionnaire de l'Académie de 1762, donc celui qui va regrouper le dictionnaire de l'Académie et le dictionnaire des arts et des sciences. Terme de marine, faire avancer un navire en tirant un câble à force de bras ou au moyen du cabestan. Au lieu que, alors c'est ce au lieu que qui est important, au lieu qu'on remorque au moyen d'un bâtiment à rames. Alors, on va regarder à la page suivante comment ça s'organise. Première question, quels sont les termes techniques qui sont employés dans, chacune de ces définitions? Furtière utilise le terme cabestan ou capestan, le verbe aller, la ancière et le verbe remorquer ou remorguer. Donc il utilise au total quatre termes techniques. Ozanam n'en utilise qu'un, c'est encratoué. Il n'utilise ni cabestan, ni aller, rien. Corneille utilise encratoué, aller, ancière et toueur. Aubin n'en utilise qu'un, c'est ancière. Et le dictionnaire, le quatrième de l'Académie, en utilise trois, cabestan, ancière, remorqué. Donc on voit que, en nombre de termes techniques utilisés, c'est Furtière et Corneille qui en utilisent le plus, avec quatre, le dictionnaire de l'Académie, trois. Et les deux supposés les plus techniques, c'est-à-dire Ozanam pour dictionnaire des mathématiques et des sciences en général, et Aubin pour la marine, n'en utilisent chacun que un. Encre à touer pour Ozanam et ancière pour Aubin. Alors on peut se dire que c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce que ce sont les dictionnaires techniques qui utilisent le moins de termes techniques? Je pense que la raison, c'est qu'ils supposent que les gens qui vont les lire ont déjà un peu dans l'esprit un certain nombre d'éléments en tête et que ce n'est pas la peine d'entrer dans tous les détails. Tandis que Furtière se fait un raisonnement exactement inverse. Il dit, ça va être lu par l'honnête homme qui n'y connaît rien, j'ai besoin d'entrer dans tous les détails, c'est-à-dire expliquer ce que c'est qu'une ancière, ce que c'est qu'un cabestan, etc. Voilà. Alors, ce qu'on remarque aussi, qui est assez curieux, c'est que si on compare les deux qui ont quatre mots techniques, eh bien, ils n'ont pas exactement les mêmes. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y en a que deux qui sont en commun, c'est aller et ancière. Hein? Encratoué ne se trouve que chez Corneille, et remorqué, par contre, ne se trouve que chez Furtière. Alors, on peut donc dire que le terme touer a une polysémie, hein, c'est-à-dire qu'il peut correspondre à deux types d'actions différents, et la question est de savoir comment, progressivement, cette polysémie va être réduite, c'est-à-dire comment on va régler la question du rapport entre touer et remorquer. Donc, je rappelle les types de mouvements. Dans touer, on a une ancre qu'on jette. Alors, je ne sais pas de quelle manière on la jette, ou est-ce qu'on emmène une chaloupe pour aller le plus loin possible. L'ancre à touer part au fond. À partir de ça, on accroche cette ancre par une ancière à un cabestan. On tourne le cabestan, et donc, à partir d'un point fixe, on se rapproche. Ça permet, par exemple, de se rapprocher d'un quai, de changer de position. Remorquer, c'est différent puisque ça se fait à partir d'un point en mouvement. C'est-à-dire que le câble ou le cordage ne va pas changer de longueur, il garde une longueur fixe, hein, et c'est une chaloupe ou un autre petit bateau à rames qui va tirer le navire. Donc on voit que ce sont deux types d'actions qui ont des éléments en commun. L'élément en commun, c'est le cordage et c'est le but, c'est-à-dire de déplacer le bateau. La différence, c'est ou bien c'est un point fixe et on enroule la ancière sur le cabestan, ou bien c'est un point en mouvement et il y aura deux mouvements parallèles. Donc, on voit que chez Furtière, touer correspond de toute manière à la première action, mais ça correspond aussi possiblement à la deuxième, et il dit on peut également pour ça dire remorquer. Pour Ozanam, c'est pareil. Il dit également, on peut dire remorquer. Alors, c'est à partir de l'Académie française, dernier de l'Académie française, qu'on va dire c'est ça ou c'est ça. C'est-à-dire que on ne va plus avoir pour cette action-là soit touer, soit remorquer, mais uniquement remorquer qui va apparaître. Donc, je dis la définition de Furtière est la plus complète, avec des indications philologiques, donc des étymologies, bien que ce soit un dictionnaire dit universel, c'est son nom. Hein. Le second sens équivalent à remorquer est attribué au navigateur levantin, ce qui fait intervenir une autre notion, c'est-à-dire une notion qu'on appelle diatopique. Diatopique, c'est-à-dire dans certaines zones du monde, ça se dira comme ça, dans d'autres zones du monde, ça se dira comme ça. Donc en gros, accomplir l'action qu'on appellera maintenant remorquer dans les mers du Levant, on dira remorquer, dans les mers de l'ouest occidental, on dira touer. Bon, alors là, on a à peu près ce que je viens d'expliquer, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Et j'essaye de reprendre le tout sous la forme de trois stades. Trois stades par lesquels sont passés les lexicographes pour arriver progressivement à créer une situation explicite. Donc, stade 1, On dit toué dans les mers occidentales, on dit remorqué dans la mer de Levant, et on ne s'occupe pas de savoir quelle est la technique. C'est deux termes correspondant à deux endroits. Stade 2, on dit toujours toué dans les mers occidentales, et on peut dire toué ou remorqué sinon. Donc, on a une polysémie, c'est soit A, définition A, soit définition B. Stade 3, qui va être apparemment le stade du début du XVIIIe siècle, toué va être uniquement utilisé pour un mouvement à partir d'un point fixe et remorqué uniquement utilisé pour un mouvement en parallèle. Donc la situation de départ était une situation de monosémie, donc en termes techniques, c'est-à-dire un seul sens lié à deux variantes régionales, mer de l'Ouest, mer de l'Est. Ensuite, situation de polysémie, on ne sait plus, on mélange les deux. Et ensuite, situation à nouveau de monosémie, mais qui n'est plus liée à une considération régionale, qui est simplement liée à une différence de technique. Donc on peut dire qu'à partir de 1708, on a une fixation de la terminologie. On va regarder le deuxième exemple, un peu plus compliqué, qui est l'exemple d'agréé. Alors, je ne vais pas présenter exactement de la même manière, mais on a quand même toujours à gauche dictionnaire de marine, au milieu dictionnaire des sciences et des techniques, donc celui d'Ozanam, celui de Corneille, et à droite dictionnaire généraux. Alors, on va partir du premier, c'est-à-dire furtir. La question qui se pose essentiellement, c'est est-ce que les gens qui composent les dictionnaires se rendent compte qu'il y a homonymie ou pas? Est-ce que la notion d'homonymie est perceptible à cette époque-là? Et s'ils ont le sentiment qu'il y a polysémie, qu'est-ce qu'ils vont faire pour essayer de résoudre cette question? Donc, furtir en 1190, verbe d'action, plaire, être agréable. Exemple, il a agréé le présent que je lui ai fait. Ou ratifier, approuver, le roi a agréé la résignation d'un tel bénéfice, d'une telle charge. Puis, terme de marine, toujours dans le même article. Fournir un navire de son funin, voile, canon, poudre, balles et mèches, selon le voyage. Il signifie aussi voir si tous les cordages sont bien garnis, suffisants et en état. Et on dit entre marchands, agréer un vaisseau pour dire accepter un navire. Le dictionnaire de l'Académie, 4 ans après, dit simplement « Recevoir favorablement, Dieu agrée nos offrandes, nos prières, trouver bon, approuver, agréer que je vous dise. » Alors, il est tout à fait normal que le dictionnaire de l'Académie de 1694 ne mette pas le sens de marine, parce que ce sens de marine relève de son supplément, qui est le supplément technique de Corneille. Donc Corneille dit « terme de marine », agréer un vaisseau, c'est le mettre en état de faire voyage, en y plaçant toutes les manœuvres, poulies et autres choses dont il doit être garni. Les marchands disent aussi entre eux, agréer un navire pour dire l'accepter. Et ensuite, Aubin, 1708, agréer un vaisseau, c'est l'équiper de ses manœuvres, de bergues, de poulies, de voiles, d'ancres et de câbles. En un mot, c'est le mettre en état de faire voyage. Agréer un navire, c'est un terme de marchand pour dire accepter un navire. Bien. Et Ozanam, j'ai oublié, c'est entre les marchands, accepter un navire. Donc, j'ai essayé de marquer de deux couleurs différentes, là ça apparaît en bleu et en gris, deux éléments de définition qui sont incompatibles l'un avec l'autre. D'un côté, agréer dans le sens de placer les agrès, hein, et de que le navire soit prêt à voyager. Et d'autre part, agréer, terme de marchand, est-ce qu'on accepte un navire dans un port? Est-ce qu'on lui permet d'accoster? Donc, on voit que pour furtière, on a le sens général, le premier sens de marine, et le deuxième sens qui ne relève pas véritablement de la marine, mais qui relève plutôt du commerce. Donc, un sens de commerce. Seul ce sens de commerce est mentionné par Ozanam. Corneille, comme furtière, mentionne le sens de marine, le sens de commerce. Aubin, comme Corneille, mentionne le sens de marine, le sens de commerce. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que à partir de 1762, il va y avoir une intégration du dictionnaire de Corneille dans le dictionnaire de l'Académie, et on va avoir terme de marine, équiper un vaisseau de voile, de cordage et de tout ce qui est nécessaire pour le mettre en état de naviguer, Exemple, on lui a envoyé ordre d'agréer un tel vaisseau. Et le sens de commerce a disparu dans cette édition de l'Académie. C'est-à-dire qu'on a estimé que c'était sans doute quand même vraiment trop technique, que ce n'était pas la peine. Dans l'Académie de 1835, ça va être la 7e édition, donc il y a eu encore 2 autres éditions entre là, on va pour la première fois avoir « terme de marine, il se disait autrefois dans le même sens que « gré ». Donc, ce qui se passe, c'est que les lexicographes se rendent compte que, en fait, on est en présence de 2 verbes différents. Un signifiant « recevoir favorablement », »,« donner son accord », et un autre « fournir un navire de voile », etc. Il faut les séparer. Il faut arriver à ce que ça devienne 2 mots différents. Ce qui complique singulièrement la chose, c'est le fait que le premier sens général, « recevoir favorablement », c'est en fait ce sens-là qui intervient dans l'activité de commerce. Ce que font les marchands, ça n'a plus aucun rapport avec les gréments. Hein, c'est une question d'agrément et non plus de gréement. Alors, revenons un petit peu dans le passé pour comprendre ce qui s'est passé. Au départ, on a un terme de l'ancien nordique, du norrois, qui est « greida », équipé, arrangé. Bon. Et puis, on a une deuxième source, qui est le latin « gratum », qui indique ce que... Dont on a la forme négative avec un gras en français. Donc, être reconnaissant. Donc, du latin gratum, neutre substantif de l'adjectif gratus, agréable, bienvenu, aimable, accepté avec reconnaissance, reconnaissant. Donc, on va obtenir un verbe qu'on appellera maintenant agréer un, trouver à son gré, admettre, recevoir favorablement, dérivé du gré de gratum, plus un préfixe a et une désinence et de premier groupe. Ici, on va avoir un verbe agréé 2. Donc, le mot moderne vieilli depuis l'Académie de 1835 a été peu à peu évincé par le verbe de même sens gré. Donc, on peut dire que c'est en gros dans la première moitié du 19e siècle que les lexicographes décident de fixer la terminologie en séparant les 2. Alors, on nous dit qu'il existe encore exceptionnellement au 20e siècle, mais c'est pratiquement disparu. Donc, maintenant, pour agréer 2, on nous dit « marine vieillie, préparer ou travailler la garniture aux agrès d'un bâtiment, mais on dit plus souvent, qu'on travaille à la garniture des mâts et des vergues, aux voiles et aux rechanges. » Donc, le verbe « gréer » va s'imposer et « agréer » va progressivement tomber dans devenir obsolète. À partir de « greida », on obtient également une forme équipée, arrangée. Alors, on nous signale le moyen néerlandais « reiden », le moyen haut-allemand « gereiden », et on dit qu'il y a eu un phénomène qui est lié un peu à des formations comme « habillé ». Donc, « agréer » dans le sens de « trouver à son gré » et donc d'accepter, va se spécialiser là, et de ce côté-là, on va avoir gréé avec disparition du A. Donc, équiper un bâtiment de tout ce qui lui est indispensable pour être en état de naviguer, voile, cordage et poulie. Voilà, il était gréé en goélette. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas complètement exceptionnel. J'ai eu l'occasion, dans un autre domaine, d'étudier comment sont apparus les verbes « faillir » et « falloir », et c'est produit exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en ancien français, on a un seul verbe « faillir », et ce verbe « fallir », plus personne ne sait comment le conjuguer. C'est le bazar complet. Et donc, on décide que s'il est employé uniquement à la troisième personne du singulier et s'il a un sens de nécessité, on va dire « c'est le verbe « falloir ». Et puis, si on peut l'employer à d'autres formes, « j'ai failli »,« nous avons failli »,« vous avez failli », ça va devenir le verbe « faillir ». Donc, mais ça se produit beaucoup plus tôt, c'est-à-dire que ça se produit à l'époque du moyen français. Tandis qu'ici, c'est tard, c'est simplement à la fin du 19e siècle. Ce que j'ai voulu montrer par là, c'est que le vocabulaire de marine pose des problèmes qui sont ceux qui intéressent le linguiste, le lexicographe en général. Et en particulier, un des problèmes, c'est que quelqu'un comme Furtière, même s'il était très très fort comme lexicographe, il n'imaginait pas d'avoir 2 articles. Pour lui, c'était en dehors de... même s'il avait su, il savait certainement qu'il y avait deux étymologies différentes, pour lui, ça constituait un seul article. Hein. Et on peut dire que c'est vraiment une création de la lexicographie de la deuxième moitié du XXe siècle, donc à partir des années 1960, approximativement, qu'on a commencé systématiquement à avoir des entrées homonymes. Alors au départ, on a accepté des entrées homonymes que pour des raisons soit de conjugaison différente, par exemple ressortir, participe présent ressortant ou ressortissant, donc deux verbes différents, hein, soit pour des raisons d'étymologie différente. Et puis progressivement, on a étendu ça maintenant pour des verbes qui ont des sens extrêmement différents, qui sont complètement inaccessibles. Mais voyez que Furtière ne se rend pas compte que quand il dit « et on dit entre marchands agréer un vaisseau pour dire accepter un navire », il ne se rend pas compte qu'il croit rester dans le domaine de la marine, mais qu'en fait, c'est le premier sens hein, qui se trouve là. Et pas le sens de marine. Et ça, progressivement, à force de travailler les uns sur les dictionnaires des autres, à se relire les uns les autres, ils se rendent compte que ça va pas et qu'il faut essayer de trouver une solution. Je suis par contre incapable de vous dire à quelle date exactement l'Académie française a pu décider que ça serait l'un ou l'autre. Mais enfin, on peut dire c'est entre la 7e édition, 1835, et la 8e, qui est 100 ans après, 1935. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, les éditions sont devenues très très, très très éloignées les unes des autres. En 100 ans, ils ont eu le temps de réfléchir à la question. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.